Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast de notre série sur la préparation Ironman avec mes collègues du Tri-Team Lutri qui m'ont rejoint pour cet épisode. Donc, comme d'habitude, je retrouve Arnaud. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Il y a Thomas aussi qui est avec nous. Salut Thomas.
Hello Greg.
Et puis Steve. Salut Steve.
Salut à tous.
Alors j'espère, messieurs, que vous allez bien, que vous continuez votre préparation sportive le mieux possible. Avant de parler de la thématique de cet épisode de ce soir, on va peut-être juste faire un petit tour de table parce qu'on est entre nous pour cet épisode. Et puis c'est quelque chose qu'on aurait fait de manière un tout petit peu plus appuyée si on avait eu une saison entre guillemets normale, mais juste profiter un petit peu. Comment se déroule votre préparation en ce mois de mai 2020 qui est un petit peu particulier On va commencer peut-être avec toi, Arnaud. Comment est-ce que tu t'entraînes en ce moment ?
Écoute, pas trop mal en termes de charge. C'est assez soutenu. Donc, comme on en avait un peu parlé, comme on avait abordé dans un épisode précédent, on essaie de garder quand même cet objectif d'être prêt pour une full distance au cours de l'été, même si ça a été reporté d'une année. Mais on suit notre programme. Et de mon côté, ça se passe bien. Là, on va recommencer à sortir de manière un peu plus régulière aussi. Mais en tout cas, il y a eu une grosse phase étendue finalement sur la partie plus home trainer qui a été en tout cas très bénéfique pour moi. Maintenant, j'ai des très bonnes sensations, je me connais mieux. Et du coup, c'est d'autant plus agréable quand on fait les sorties avec les copains, quoi.
Impeccable. Thomas, toi aussi, la préparation, elle se passe plus ou moins bien, enfin un peu.
Oui, même très bien. On a essayé de garder le niveau d'entraînement. Comme Arnaud, pas mal de home trainer. C'est vrai que Zwift a pas mal aidé ces derniers temps. J'ai aussi fait 4 semaines de travail spécifique sur la force avec un peu un combo de home trainer, de squat, de renforcement musculaire et des tests aussi pour voir l'évolution. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas forcément fait si on n'avait pas eu cette période un peu spéciale qu'on a traversée. Donc, voilà, on avance comme ça. Il a fait beau le week-end dernier. Le lac ici en Suisse commence à atteindre des températures correctes, en tout cas avec la combi. Donc, comme on n'est pas enfin, en tout cas, on peut aller se baigner au lac. C'est pas encore interdit tout seul. Donc on profite comme ça. Et puis, on continue de courir toujours un petit peu.
Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais retourné nager. Là, tu avais fait les premières tentatives en eau libre. La température du lac en ce moment est à combien ?
Je dirais 16 degrés à la surface de l'eau.
Ok, ouais, donc ça commence à devenir jouable même.
C'est correct.
Ouais, ok. Faut être un peu courageux, mais une fois qu'on est dedans, ça va, ça nage.
Ouais.
Ouais, impeccable. Et puis Steve, toi, tu continues ton entraînement.
Alors aussi, ouais, moi je suis plutôt passé. Je pense que le mot préparation, il est plus vraiment d'actualité dans le sens que y a pas mal de courses, enfin quasiment tous mes objectifs qui ont été annulés. Donc, je suis plutôt passé en mode entraînement, mais sans vraiment préparer quelque chose. En fait, au retour de Fuerteventura, on est rentré le 14 mars. C'est vrai que les conditions météo étaient bonnes. Mars-avril, j'ai quand même fait pas mal d'heures par semaine de sport. Mais sans vraiment suivre une prépa par rapport à une course. Donc, du coup, je pense que je suis un peu allé dans... Ouais, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais... Je sortais un peu plus au feeling et au plaisir et par rapport à la météo. Donc j'ai quand même fait des semaines où j'ai aligné 15 heures par semaine. Et puis je crois qu'aujourd'hui, je pense que j'en ai quand même un peu fait. Je crois qu'il y a quand même mon corps qui est en train de me dire stop, repose-toi. Et puis, on sait que le semi de Aix n'aura pas lieu le week-end prochain. Mais je me suis posé un peu la question comme ça. Est-ce que s'il devait avoir lieu, est-ce que tu aurais été prêt ? Et dans la condition que j'ai aujourd'hui, non. Je pense que ma réponse aurait été non. J'aurais pas fait un bon semi. Parce que je me sens fatigué, mon corps il a deux trois petits bobos, donc je vais me calmer un peu et puis repartir un peu sur d'autres pas d'autres bases, mais un petit repos me fera du bien. Et puis effectivement j'ai aussi fait ma première session en eau libre samedi dernier. Puis je confirme comme Thomas le disait par rapport à la température, un 15-16 degrés, ça commence à être agréable en combi. Et puis voilà, mais en tout cas le nombre d'heures hebdomadaires est là. Mais il faut quand même que je fasse attention à ne pas ça pas avoir de petits bobos qui pourraient entamer ma saison estivale.
Ouais, c'est vrai, hein, on le répète pour les personnes qui nous écoutent depuis au-delà des frontières suisses. Nous, on a eu la chance d'avoir un semi-confinement où on pouvait rester actif dehors sans avoir une attestation, sans avoir de limitation en termes de distance du domicile. Simplement, la règle, c'était qu'on devait s'entraîner tout seul ou en tout cas pas en groupe de plus que 5 personnes puis respecter la distance sociale. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'interdiction d'aucune pratique sportive à l'extérieur. Et donc... on en a tous plus ou moins profité. Steve, un petit peu beaucoup à ce qu'il nous dit là en ce moment. Voilà, le fait qu'on ait eu plus de temps pour s'entraîner, puis que les conditions, c'est vrai, étaient jolies hein, pour aller courir ou rouler à l'extérieur. Il a fait beau temps et on avait des routes relativement peu chargées en termes de circulation. Donc, toi, t'en as peut-être un petit peu trop mis, comme tu l'as dit, heureusement, entre guillemets, que les objectifs, finalement, ne sont plus aussi proches maintenant dans le temps. On en parlait juste avant d'enregistrer cet épisode. La grosse différence par rapport à la période où on enregistrait l'épisode précédent, c'est que maintenant, on a eu l'officialisation hein, de l'annulation de l'Ironman de Thun. Donc, en fait, l'Ironman qui devait être l'objectif pour chacun d'entre nous, puis qui était un petit peu aussi l'objectif de cette mini-série de podcast, et ben maintenant, elle a été repoussée en 2021. Il n'y aura pas de report au mois de septembre ou d'octobre comme on aurait pu l'imaginer ou comme ça a été le cas pour certaines courses. Donc, voilà, maintenant, nous, les objectifs, s'il en reste pour quelques-uns d'entre nous, ils ne sont pas avant fin septembre, début octobre. Donc voilà, c'est vrai que comme Steve le disait, maintenant il faut essayer de trouver d'autres sources de motivation dans l'entraînement. C'est plus forcément des préparations pour des courses à court ou moyen terme, mais voilà, il faut trouver d'autres sources de motivation. Alors moi, je regarde un petit peu mes segments Strava en ce moment, messieurs. Donc, je regarde en course à pied et puis à vélo les performances que je pourrais réaliser autour de chez moi pour essayer d'améliorer un petit peu mes classements là-dedans. Alors, sans que ça devienne une obsession, mais voilà, c'est un objectif un petit peu à vue que j'ai pour rester dans le train de l'entraînement. Donc, voilà.
Allez chercher les coms.
Aller chercher, alors peut-être pas les coms, mais en tout cas essayer d'améliorer mes propres records personnels sur certains segments ou certains parcours. Et puis comme ça, j'essaye de me projeter un petit peu sur certains parcours de course à pied, par exemple, comme si c'était une compétition, puis essayer de rester dans le rythme à ce niveau-là. Alors tout seul, quand on court, on n'a pas de dossard, on n'a pas d'autres concurrents qui courent avec nous, donc c'est toujours un tout petit peu plus difficile de se pousser à fond, mais voilà, c'est une façon d'y arriver aussi, d'avoir ces objectifs-là. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de toutes les questions qu'on peut se poser avant un triathlon, et en particulier avant un triathlon de longue distance. Je sais que certains d'entre nous, dans cet épisode, n'avons pas encore couru sur la distance complète de l'Ironman. Et puis, pour ceux qui l'ont déjà fait, en tout cas, c'est mon cas, hein, la première fois que je suis arrivé sur une distance complète, j'avais des questions plein la tête sur par rapport à un triathlon de distance olympique ou par rapport à un demi-Ironman. Qu'est-ce qui change par rapport à une distance complète? Et puis, toutes ces questions, on va les aborder un petit peu dans cet épisode. Alors, peut-être qu'on va commencer le round de questions. Quelle est la plus grande interrogation que vous avez, je pense en particulier à Thomas ou Arnaud, parce que vous avez encore pas été confronté à cette distance complète en compétition. Donc, quelle est la question, l'interrogation que vous avez, la plus importante par rapport à affronter cette distance complète? Peut-être Thomas, pour commencer.
Avec plaisir. Je pense que la plus grosse interrogation, on l'a discuté lors du podcast précédent sur l'alimentation. Ça, c'est vraiment la black box de mon côté. C'est comment gérer plus de 10 heures d'effort au niveau alimentaire. Parce que toutes les autres petites questions sur les transitions, les petits détails, l'échauffement, la veille de course, etc., je pense que là, on va se rapprocher d'une distance semi-Ironman. Par contre, pour les 10 heures et plus de la course, les 10-12 heures de course, là, par contre, c'est ma grosse interrogation.
Donc c'est comment arriver, on en discutait effectivement lors du dernier épisode, comment arriver à compenser toutes ces calories qui sont dépensées au fur et à mesure de l'épreuve, d'un point de vue pratique, comment réussir à digérer autant de calories sur le vélo, puis surtout probablement sur la course à pied, ça c'est vrai que c'est une question importante. Et puis Arnaud, toi, Quelle est ton interrogation principale par rapport à cette distance?
Écoute, il n'y en a pas qu'une. Je pense que clairement l'alimentation et puis au fur et à mesure en fait les discussions qu'on a tous ensemble, bah, elles rajoutent des questions et des interrogations. Mais on va dire avant tout et lorsque je me suis enregistré pour cette compétition, la question qui me trotte toujours dans la tête, elle se situe en fait par discipline et typiquement c'est la distance sur le vélo. Suis-je capable d'arriver à boucler cette distance et surtout dans quel état et en combien de temps au final combien je vais laisser de points d'énergie et d'effort et la deuxième après bah, c'est la course à pied et j'ai une sorte de peur autour de la course à pied c'est de marcher et puis d'être à l'abandon quoi. Et c'est vraiment toujours avoir en tête voilà, cette finish line et les deux questions elles sont là parce que tout simplement aussi, j'ai jamais fait ces distances à sec. Donc, que ce soit le marathon, jamais couru de marathon. Plus grosse distance, ça devait être du trail, c'était autour des 35 km. Donc, on peut estimer qu'après, on arrivera à la maintenir, la distance, mais il n'y a pas 180 km de vélo juste avant. Et donc, du coup, c'est ça aussi. Le vélo, jamais fait une aussi grosse distance. Donc, voilà, on sait que quand on est dans le mindset de la course, c'est quand même quelque chose un peu qui transcende. Évidemment, on se prépare pour ça, mais ça reste, voilà, c'est plus sur la capacité, un petit peu ce que j'avais dit au cours des épisodes précédents. Ai-je la capacité d'y arriver? Alors, c'est un peu plus macro que sur la nutrition et d'aller dans le détail, mais voilà, il est là le challenge, finir.
Mais du coup, c'est une bonne question. Est-ce que tu penses qu'on doit avoir déjà fait la distance, au moins dans les trois disciplines, avant d'arriver sur un Ironman? Peut-être que je te pose la question à toi, Greg, ou à Steve. Vous avez déjà fait la distance avant de s'aligner sur le départ?
Alors, Steve, peut-être que je te laisse d'abord répondre avant ton Swissman.
Ouais, je réponds déjà à Thomas par rapport à cette question. Bah, je pense que, au moment où j'aurais parlé de mon expérience du Swissman en 2017, moi, je pense que c'est un élément qui m'a rassuré d'avoir déjà couru des marathons, d'avoir déjà fait des distances de 160, 200 kilos à vélo. La natation pour moi c'est un peu la discipline où je suis vraiment pas bon du tout, donc de ne pas avoir nagé 4 kills ça me faisait pas plus peur que ça, même si quelques semaines avant le départ de Swissman, je me suis quand même rassuré en nageant cette distance là mais en tout cas pour moi ça m'a quand même rassuré de savoir que le marathon je l'avais déjà fait et puis que le vélo une distance de 180 kills j'étais aussi capable. Après, si je reviens sur mon expérience de Swissman, c'est clair que si on prend le parcours vélo, c'est 180 km, mais avec 3700 mètres de dénivelé. Donc ça rajoute quelques heures d'effort. Et puis, par rapport à cette course-là, j'ai eu la chance de pouvoir me reposer un peu par rapport à des références au sein du club qui avaient déjà fait cette distance-là. Puis en fait, avec le Swissman, on doit choisir en fait, un supporter. Donc j'ai pris un supporter qui est assez connu dans la région, qui s'appelle Eddy Delahaut, qui a lui-même déjà fait plusieurs fois, qui a fait plusieurs triathlons extrêmes. Donc j'avais en fait son expérience déjà par rapport à la préparation, où justement lui m'avait conseillé de plutôt miser ma prépa sur le vélo pour être relativement encore en forme avant le marathon, donc de pouvoir faire les 180 kilos de vélo. En posant le vélo, en étant quand même encore en forme. Et puis après, tout ce qui était nutrition, je me suis aussi préparé par rapport à son expérience à lui. Et puis voilà, j'avais lui comme supporter pour tous les ravitaux. Donc j'étais quand même bien entouré et bien en confiance avec quelqu'un qui avait déjà expérimenté ces distances.
Moi, je pense que comme Steve le dit, il y a un côté rassurant psychologique d'avoir fait déjà les distances avant. Mais effectivement, moi, j'avais déjà couru le marathon de Lausanne deux fois avant de me confronter à la distance Ironman. Mais pour autant, un marathon d'Ironman n'a rien à voir du tout avec un marathon couru à sec. C'est absolument pas pareil. Et puis, je reviens à l'observation et au questionnement de Arnaud. J'avais la même chose, en fait, c'est de me dire... Moi, j'avais déjà fait des 180 bornes à vélo, alors avec un petit peu de dénivelé. On était allé d'ailleurs avec le club rouler aussi un peu dans les Alpes où on a fait une étape de proche de 200 km mais avec énormément de dénivelé et là, tu te demandes, mais comment est-ce que c'est possible après ça? Parce que tu poses le vélo, t'es rincé, hein, t'as plus aucune énergie. Comment est-ce que j'arrive à partir sur un marathon après ça? Et en fait, à l'entraînement, tu travailles jamais à faire 180 bornes de vélo, puis ensuite de courir un marathon. C'est juste à l'entraînement pas possible. Donc, soit tu fais plus court à vélo et puis tu peux courir un petit peu plus longtemps après, ou alors tu fais plus long à vélo, mais tu vas juste enchaîner avec 5-10 km grand maximum à pied. Et même quand tu fais ça, tu te rends compte que c'est difficile. Et en fait, c'est là vient le questionnement, mais est-ce que je vais en être capable le jour de la compétition? Et bien, c'est un petit peu là aussi qui est tout l'enjeu de l'Ironman, et puis un petit peu tout le piquant de cette distance, c'est d'arriver le jour de la course à gérer correctement son vélo en en mettant juste ce qu'il faut pour pouvoir derrière sortir un marathon correct. Mais le jour de la course, en fait, on a des ressources insoupçonnées qui surgissent. Et puis moi, ça, même dans les jours qui précédaient ou dans les semaines qui précédaient tous mes Ironman, j'ai fait une sortie de 150 bornes à vélo. Et puis j'ai essayé de courir 20 km après. Mais après les 20 km, j'ai dit je pourrais jamais courir le double. Et en fait, le jour de la compétition, bah, quand tu arrives au kilomètre 20, t'es une machine, t'es réglé sur tes 42 km. Tu dis maintenant, j'ai la moitié qui est fait, il reste encore 20. Et puis finalement, ça se fait, quoi. Mais c'est vrai que psychologiquement, il y a un énorme aspect. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé quand même d'avoir affronté les distances et d'avoir fait des sorties de 180 bornes compliquées, difficiles avec du dénivelé à vélo, et puis d'avoir fait des marathons complets de 42 bornes pour me dire déjà, individuellement, les épreuves, je suis capable de les faire. Donc les enchaîner, ça doit pas être si compliqué que ça. Mais je pense pas que c'est important ou essentiel de l'avoir fait avant. Ça rassure, mais en fait, finalement, ça dit pas grand-chose sur ce qu'on va être capable de faire le jour de la course.
Ouais, c'est peut-être, en fait, au final, là, ce que tu dis sur la fin là, qui est intéressant, c'est d'arriver peut-être à enchaîner, donc peut-être pas de travailler sur des distances aussi énormes, mais peut-être voilà, faire une sortie vélo, enchaîner après sur un petit peu de course à pied, pour habituer finalement à cette transition, parce qu'on ne travaille pas le même groupe musculaire exactement, et c'est plus dans l'habitude, voilà, habitude biomécanique peut-être, d'enchaîner sur ces deux types de sports. Et c'est peut-être, ouais, je ne sais pas, peut-être ça aussi à faire. Je sais que notre camp à Fuerte, on associait assez régulièrement les sorties course à pied à la suite du vélo. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément facile au début, mais aussi pour le mental, c'est pas mal parce qu'après, on se rend compte que ça revient et puis on retrouve un plaisir à courir et finalement à se retrouver des ressources, quoi.
Ouais, bah ça c'est sûr que c'est important de le travailler à l'entraînement, l'enchaînement, hein. On le sait, on travaille plus facilement l'enchaînement vélo-course à pied que l'enchaînement natation-vélo pour des raisons simples de logistique, hein. C'est que c'est plus difficile de trouver des endroits où on peut facilement enchaîner la natation et le vélo. Mais pour autant, c'est important quand même, je pense, alors pas forcément de partir sur son vélo tout de suite après avoir fait de la natation, mais par contre quand on s'entraîne en eau libre, et là on va recommencer à s'entraîner en eau libre, c'est important de juste essayer de faire l'effort, de faire son entraînement en eau libre et de sortir de l'eau et de courir un petit bout. Pas forcément ensuite d'aller sur le vélo, mais simplement de se retrouver de cette position où on est horizontal à se relever à la position debout et puis à courir, genre je vais courir dans ma zone de transition et je vais aller me changer. En fait, c'est ce moment-là où on peut, si on n'est pas entraîné correctement et puis qu'on a bien appuyé dans l'eau, on peut se retrouver avec des vertiges ou alors avec des crampes dans les mollets au moment où on se remet à courir. Et ça, c'est aussi important de le travailler à l'entraînement, et je pense que c'est souvent un petit peu négligé par les triathlètes. Je pense que l'entraînement d'enchaînement vélo-course à pied est plus entraîné que le premier, mais je pense qu'il y a quand même du boulot à faire. Et puis après, bah voilà, moi, je ne sais pas si c'est une technique parfaite, on en discutera peut-être dans des prochains épisodes avec des coachs qui nous le diront, mais je pense que soit enchaîner un 150 km de vélo, donc vraiment en ayant bien appuyé la longueur du vélo, et puis en allant courir 5-10 km après, mais à l'allure que j'aimerais courir mon marathon sur Ironman, ou alors faire plus court, faire 100-120 km de vélo, mais après courir une vingtaine de kilomètres à l'allure Ironman toujours sur mon marathon. Ça, c'est des entraînements que je fais très régulièrement dans les deux mois qui précèdent la compétition. Et ça, je pense que ça m'a aidé parce que ça permet de trouver directement le bon rythme sur le marathon. Moi, j'ai tendance, quand je sors de la partie cycliste et que je pars courir, et je pense que c'est une tendance naturelle parce qu'on a l'habitude d'avoir le paysage qui défile vite quand on est sur le vélo, on a cette impression de vitesse et on part en course à pied. Moi, je suis toujours un peu en sur-régime à ce moment-là, et je pense que le travailler et puis se forcer à avoir tout de suite le bon pacing sur la course à pied, c'est vraiment capital, parce que sinon on peut tuer sa course à pied dans les 5 premiers kilomètres, je pense. Donc, comme disaient certains spécialistes, on ne gagne pas son Ironman dans les 5 premiers kilomètres de course à pied, mais on peut le perdre. Donc, c'est important de partir juste, sur sa course à pied. Et puis, il y a juste un point capital puis qui revient à la toute première observation de Thomas par rapport à l'alimentation. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais je pense qu'il est important de rappeler, c'est le jour de la compétition, il ne faut jamais, jamais, jamais rien tester de nouveau. Et donc, tout ce qu'on va appliquer le jour de la compétition, il faut l'avoir travaillé à l'entraînement. Et ça, on parle de tout, hein. On parle de la nutrition, comme disait Thomas, de ne pas faire des expériences. Et puis, si on arrive à se renseigner sur les ravitaillements et les sponsors de ravitaillement qui sont donnés le jour de la course, et bien essayer de voir si ces produits on les accepte ou pas, et sinon partir avec son propre ravitaillement, en tout cas au niveau solide, que ce soit au niveau de la tenue, donc même si on a une trifonction qu'on veut garder pour les compétitions, en tout cas sur des distances demi-Ironman ou Ironman, c'est important de les utiliser 2-3 fois à l'entraînement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, une couture qui est un petit peu ratée ici, qui fait une irritation, ou alors quelque chose qui ne joue pas au niveau de la natation, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes à tester. Et puis le matériel, évidemment, hein, on va pas prendre un vélo ou des chaussures qu'on connaît pas sur une compétition. Pareil pour la combinaison de natation, ça c'est du bon sens, mais on voit encore tellement de gens qui tout d'un coup sur le jour de la compétition changent le petit déjeuner, changent le repas de la veille, changent l'alimentation pendant la course, et puis ça mène invariablement à des catastrophes. Donc ça, c'est vraiment une règle de base.
Après, peut-être une interrogation qui me vient maintenant par rapport à mon expérience de 2017 sur le Swissman et l'Ironman de Thun qu'on aura dû faire maintenant en juillet 2020, c'est peut-être la différence du mode de course. Parce que moi, en 2017, j'ai fait le Swissman comme défi sportif, comme aventure, donc pas du tout en mode, on va dire, compétition. Et puis là, pour Thun, on se fait retrouver 15 membres du club à quelque part quand même se tirer la bourre. Et comment est-ce que j'aurais géré cette course-là en mode un peu course, quoi. Ça, c'est une interrogation que j'avais pour cette année, quoi.
Ouais, effectivement, après, c'est toujours la grande question, parce que contrairement à un triathlon classique de distance olympique, par exemple, où on peut clairement se dire à l'entraînement, je fais mon pacing dans la natation, je fais mon pacing sur le vélo pour un 40 bornes, et puis ensuite je fais mon pacing pour mon 10 km, et puis je sais exactement quelles allures je peux tenir dans les disciplines, et puis me tenir à ça. Sur un Ironman, on l'a dit, on ne peut pas s'entraîner sur des distances pareilles. Alors oui, je vais pouvoir faire un 3,8 de natation, et puis comme c'est la première épreuve de l'Ironman, je vais dire si je le fais à une allure où je ne suis pas en train d'entamer mes forces, j'arrive à savoir mon pacing en natation, ok. Après, sur le vélo, ça commence à devenir un petit peu compliqué parce qu'il y a tous les paramètres du jour de la course. Il y a la température, il y a le vent, il y a le parcours, il y a plein de choses. Moi, personnellement, ça fait des années maintenant que je travaille avec les watts, hein, sur le vélo, et je crois que c'est le cas aussi de certains d'entre vous, en tout cas. Pour moi, c'est un outil qui est absolument indispensable aujourd'hui pour travailler mon pacing sur Ironman. Je l'ai utilisé, peut-être pas sur mon premier, parce que j'étais un petit peu aussi comme toi, Steve, en mode découverte. J'y allais un petit peu la fleur au fusil, mais dès mon deuxième Ironman, j'y suis allé en ayant clairement des indications de puissance que je dois développer sur 180 bornes pour essayer d'arriver avec une performance maximale sur le vélo sans être trop cramé pour la course à pied. Ça avait plutôt bien marché. Et puis pareil lors du troisième à Lanzarote, mais c'était frustrant de regarder les watts et puis d'avoir le vent dans la gueule en avançant qu'à 15 km/h, mais j'ai essayé de m'y tenir et ça a finalement permis de rentrer un marathon à peu près potable. Donc ça, c'est sur le vélo, c'est clairement une indication. Et puis après, sur la course à pied, je pense qu'il faut mettre ce qui reste, quoi. Donc je sais pas si c'est un petit peu aussi les stratégie que par exemple Thomas et Arnaud vous aviez ambitionné de faire. Est-ce que vous travaillez tous avec les watts sur le vélo, par exemple? Thomas, je sais que oui. Steve, il me semble que tu en as un.
Alors j'ai un capteur de puissance sur mon vélo BMC qui est devenu mon home trainer là, qui est à côté de moi, mais j'ai pas le capteur sur mon nouveau vélo. Donc pour l'instant, je suis pas équipé, je roule pas avec à la puissance. Mais je devrais peut-être m'occuper de ça assez rapidement.
Et puis Arnaud, toi, tu as un capteur de puissance ?
Alors non, pas encore. Mais justement, j'étais assez intéressé. Bon, j'ai découvert un peu la puissance via Zwift, hein, pour tout vous dire, parce que là pour le coup, il y en a un capteur de puissance sur le home trainer. Donc là, l'idée, c'était plus de voilà, construire de l'expérience aussi sur ça, mais sur route. Je pense que je vais investir tôt ou tard quand même dans cet outil-là. Mais du coup, ouais, c'est assez intéressant de comprendre. Toi, par exemple, Greg, c'était dans l'idée d'avoir une cible de watts en moyenne sur la distance, ou alors en fonction de la pente, en fonction de... Ouais. Comment est-ce que justement tu utilises cette data lors de ta course en live?
Alors, en fait... Moi, il y a deux stratégies. Il y a une puissance moyenne que je dois pas, que je dois essayer de pas dépasser sur la compétition, parce que je sais que sinon j'entame trop mes réserves. Et puis après, tu la découpes en fonction des segments de parcours, parce que si le parcours est plat, c'est facile. Hein, c'est une puissance constante tout le long, alors c'est facile, en tout cas en théorie. Par contre, si le parcours il est accidenté, on a toujours une puissance qui est un peu plus élevée en montée. Et donc, après, il faut essayer de calculer pour que cette puissance moyenne, elle rentre le mieux possible en la dépassant un petit peu dans les montées, puis en récupérant un petit peu dans les descentes, parce que être parfaitement linéaire sur un parcours qui est accidenté, c'est compliqué. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'aller dans les mois qui précédaient sur le parcours de Thun, qui est quand même relativement proche de chez nous. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et puis, de prendre le vélo, puis de faire cette boucle qui fait... Enfin, c'est deux boucles, hein, le parcours complet. Donc, faire une fois la boucle, de voir un petit peu comment se répartit la puissance en y allant comme sur un Alpha Iron, hein, sur le parcours de la moitié de la distance, et puis de voir un petit peu comment se découpe la puissance en fonction de la montée, de la descente, etc. Puis ensuite d'adapter cette puissance, bien évidemment, en retirant un certain nombre de pourcents, à peu près 20% sur le total, pour pouvoir gérer ça sur le double, donc 180 km, et puis ensuite pouvoir envoyer un marathon à peu près correct. Donc moi, c'était un petit peu la stratégie, c'était d'aller plusieurs fois faire la boucle avant, ouais, pour pouvoir accumuler de la donnée, pour pouvoir ensuite mieux gérer ça le jour de la course, pour vraiment connaître le parcours, connaître comment moi je réagis dedans, et puis avoir des bonnes références.
Ça c'est clair. Il y a quelque chose aussi que je ressens de plus en plus, on en parlait aussi, j'ai un compteur de vélo qui indique pas le tracé GPS, donc qui est GPS mais qui indique pas le tracé. Et on en avait parlé ensemble d'ailleurs, Greg, je pense que c'était à notre tout premier 70.3 à Nice qu'on avait fait ensemble, où toi, tu avais justement la topographie. Et je trouve que ça, c'est un outil qui est assez fantastique. Enfin, en tout cas, je le perçois comme quelque chose qui serait très utile dans à la fois ma préparation et le jour J sur la course. Parce que là, tu l'as mentionné, toi, tu es allé faire le repérage de Thun, parce que d'une certaine manière, c'est pas trop loin. Il y a certaines compétitions qui se font à plusieurs heures de voiture, voire d'avion, si on peut. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile de le voir et d'avoir cette espèce d'aperçu, par exemple, de la pente ou de la longueur en temps réel. Je pense que c'est vraiment un atout.
Oui. Et en fait, j'ai découvert pendant ce confinement, en testant, alors il y a Zwift, hein, on en a parlé pour rouler en indoor, mais il y a d'autres applications, et notamment j'ai découvert, enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais vraiment utilisé, l'application qui s'appelle Ruvi, et qui est un petit peu dans le même genre de Zwift, mais simplement, là-dedans, les utilisateurs peuvent charger leurs traces GPS, et puis leurs images vidéo, et puis on retrouve un grand nombre de parcours de triathlon. Et ça, pour moi, si à l'avenir, je dois aller faire des triathlons un petit peu plus loin, où on ne peut pas s'entraîner en vrai, hein, sur le parcours à l'avance, eh bien, c'est d'essayer de le découvrir comme ça aussi. Alors, ce n'est pas aussi réaliste que d'aller rouler sur place, mais ça donne quand même une bonne indication de ce qui se passe sur ce parcours. Et je trouve que c'est un bon moyen d'aller découvrir et de s'entraîner un petit peu sur des parcours à distance. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une bonne technique aussi qu'on peut utiliser et profiter des mois d'hiver pour préparer les compétitions qui vont arriver la saison suivante. De cette manière, je pense que ça peut te donner un bon indicateur sur le parcours, la gestion de l'effort et ce genre de choses. Et évidemment, après, si on n'a pas reconnu le parcours plusieurs fois à Thun, j'aurais pas besoin d'avoir le tracé GPS sous les yeux, hein, typiquement en 2021, parce que cet été, ça va me donner encore plus l'occasion d'aller plusieurs fois faire cette boucle là-bas. Et donc, le parcours, je le connaîtrai un petit peu comme les routes d'entraînement que j'ai autour de chez moi. Mais si je dois aller faire un triathlon à l'étranger, c'est vrai que d'avoir la trace GPS dans son compteur et de savoir que la côte dans laquelle on est dure encore 4 km ou 200 mètres, ça change beaucoup de choses par rapport à la gestion de l'effort. Et comme tu le dis, ça peut être un plus d'avoir le parcours sous les yeux et le dénivelé du parcours sous les yeux. Donc au niveau du parcours, c'est sûr que c'est quand même important de faire une reconnaissance et en tout cas de savoir un petit peu dans quoi on se lance, de regarder un petit peu les profils sur les sites des courses et puis de savoir un peu à quoi on s'attend, ça c'est clair.
Peut-être Greg, juste un point, parce qu'on parle de reconnaissance et c'est vrai que ça a été crucial lors des premières courses et je pense que ça le sera aussi à Thun, c'est de faire le repérage la veille de la course des zones de transition. Souvent, parfois, on pose le vélo quelque part, on le prend quelque part et on le pose à un autre endroit, de savoir de passe. Enfin, voilà. Mm-hmm. C'est une question aussi qu'on se pose peut-être trop souvent la dernière minute, mais qui sont cruciales lorsqu'on est le jour J dans la course et qu'on a des petites pertes de lucidité aussi avec l'effort. Donc ça, c'est des trucs, je ne sais pas si vous le faites, vous, de votre côté, messieurs, mais ça, c'est un truc, la veille ou le matin même, de repérer, de se donner des points, des lampadaires, des panneaux publicitaires, etc., par rapport à où est-ce qu'on met le vélo, où est-ce qu'on sort de l'eau, l'entrée du parc, etc. Je ne sais pas si vous le faites, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide, en tout cas, de mon côté.
Alors, en ce qui me concerne, moi, je le fais systématiquement. Alors, des fois un peu à l'extrême, parce que j'ai fait beaucoup de triathlon avec un autre membre du Tri-Team Lutri qui, lui, alors, a voué une véritable obsession au repérage des zones de transition. Donc, Christian, si tu nous écoutes, on te salue. Donc, lui, quand je suis avec lui sur une compétition, c'est sûr qu'on repère pendant des heures la zone de transition, où sont nos sacs, l'attente de transition, ensuite, comment, dans quel sens, aller dans quel rang pour aller rechercher son vélo, mais sans le faire à l'extrême, je pense que c'est important de bien le repérer, ouais, parce que c'est trop vite fait de rentrer dans la mauvaise rangée de numéros et puis de pas retrouver son sac et puis de perdre vite des poignées de minutes à ce moment-là. Et puis on en discutait lors de l'épisode sur le coaching mental avec Marc. Effectivement, tu t'énerves. Tu commences à stresser et puis ensuite tu pars sur ton vélo, tu t'en veux, tu ressasses ça et puis finalement ça te pourrit en fait une partie de ta course et mentalement tu décroches du truc. Donc c'est vraiment un moyen simple de l'éviter, c'est de savoir exactement où il faut aller. Alors je sais pas, vous le faites régulièrement, Steve, je pense que tu as quand même une expérience quand même sur le triathlon. Donc toi, tu es quelqu'un qui jette quand même un œil à la zone de transition avant de partir.
Alors ouais, je pense que je jette un œil, mais pas tant que ça. Parce que c'est vrai que si je prends un peu les expériences qu'on a eues tous ensemble à Cache-Cache ou à Nice, où on sait qu'on va passer 3-4 jours ensemble, il fait beau, il fait chaud, il y a des palmiers, c'est assez fun. Et puis on va sur place un peu la veille pour aller chercher notre matos, les dossards, les sacs et tout ça. C'est assez fun et puis on se marre bien. Et puis, on jette quand même un petit coup d'œil à l'environnement, à la zone de transition qui est déjà montée, soit en cours de construction. Et puis, puis après, c'est vrai qu'il y a eu des courses où on arrive le matin pour déposer le vélo si ce n'est pas déjà fait la veille. Et puis, bon, moi, j'ai un peu cet effet-là sur chaque course, que ce soit un marathon, une course à pied, un trail ou un triathlon, où en fait, le matin, j'ai une petite appréhension, un petit coup de stress qui arrive. Et c'est là que je me suis en train de me dire, est-ce que je me suis assez bien préparé dans cette zone de transition? Est-ce que j'ai bien fait les repérages? Parce que, hier, on déconnait un peu, c'était drôle, il faisait beau, super nickel. Et puis, on a été déposer les sacs. Mais est-ce que vraiment, là, quand je vais sortir de l'eau, est-ce que je sais vraiment... Est-ce que c'est par là que je dois arriver? Est-ce que je dois ressortir par là-bas? Donc, je pense que non, je pense que je pourrais me préparer un petit peu mieux pour ces zones de transition. Mais disons que ça m'a jamais fait rater une course. Mais disons que des fois, je me mets un petit peu la pression alors que je pourrais me préparer un peu mieux.
Et puis, Arnaud, lui, c'est déjà un spécialiste de rechercher son vélo dans la zone de transition. On le sait depuis quelques épisodes maintenant. Mais est-ce que ça t'a donné une leçon sur le fait d'analyser plus en détail les zones de transition et puis le repérage des entrées, sorties, des flux, etc.
Totalement. Alors, si j'ai vraiment une sorte de tips à donner ou un secret pour tous les auditeurs, et même vous d'ailleurs, hein, c'est de ne pas sortir dans les premières natations. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Du coup, quand tu arrives devant la barre où il y a des vélos, ben, il n'y a plus que le tien. Du coup, pas besoin de repérer à l'avance parce que tu le vois de loin. Non, blague à part, même si ça fonctionne très bien, ça fonctionne un peu moins pour les sacs au 70.3 de Nice, typiquement où dans les zones de transition, il y a des sacs, donc c'est propre à Ironman, hein, où on dépose nos affaires, on reprend et on switch et on laisse en fait sur une sorte de patère les sacs. Et c'est vrai que malgré avoir fait le repérage la veille, il y a tellement en fait d'informations qui viennent avec cette espèce d'adrénaline que je suis arrivé dans le rayon. Surtout, c'était, je crois, la transition après le vélo. Et en fait, j'étais pas dans le bon rang et j'étais persuadé que j'y étais. Pourtant, après, il faut imaginer, on est en front de mer. Il y a un peu tout qui se ressemble. Donc, c'est vrai que c'est quand même très léger, les détails. Et en fait, je regardais juste pas au bon endroit au niveau des chiffres. Pareil, hein, faut imaginer, il y a des milliers de sacs. Hein, donc, ça a été assez difficile parce que je pense que j'ai perdu au moins une minute à trouver mon sac. C'était vraiment pas agréable. Ça ajoute du stress, ça ajoute pas mal de contraintes. Donc c'est vrai que maintenant, j'essaie de d'y faire très attention. Je deviens de plus en plus, en fait... Je mets de plus en plus de rituels sur les préparations en zone de transition et inclus le repérage.
Ouais, donc ça, effectivement, c'est une partie quand même assez importante. Et de retrouver son vélo et de retrouver ses sacs, c'est quand même assez primordial, et au niveau du temps et au niveau de la gestion du stress et puis de rester concentré dans sa course. Moi, lors de mon premier Ironman, j'avais une grande interrogation, c'était ma tenue. Parce que c'est vrai que sur un short ou sur un distance classique, c'est assez clair, on part en trifonction, on garde la même tenue. Donc sous la combinaison de natation néoprène et puis ensuite sur le vélo et la course à pied. Par contre, bah, on le sait, hein, et chacun qui a déjà porté une trifonction le sait, c'est pas aussi confortable qu'un cuissard cycliste sur la partie vélo, surtout pour des longues distances. En course à pied, parfois, ça peut aussi un peu cisailler les épaules si la trifonction est juste ajustée. Et puis, ça permet aussi facilement d'attraper des coups de soleil parce que souvent les épaules sont complètement dégagées. Donc, vous aviez l'intention de vous habiller comment pour partir sur l'Ironman de Thun cet été? Est-ce que c'était trifonction ou est-ce que c'était un changement de tenue aux transitions? Par exemple, Arnaud, je te vois faire la moue, c'était pas encore tout à fait décidé?
En fait, non, tu viens de créer le doute, mais pour moi, c'était assez décidé sur le fait qu'on a des très très belles trifonctions qui sont pour des longues distances. Couleur du club non, j'étais plutôt parti sur ça, mais c'est vrai que maintenant qu'on réfléchit à la distance, je me dis qu'un peu plus de confort pourrait être intéressant, parce que c'est clairement pas, encore une fois, le temps que je viserais pour mon premier full iron. Donc c'est vrai que c'était une question que je m'étais pas posée. Pour moi, c'était assez clair que je prenais la trifonction.
Thomas, toi, tu partais en trifonction?
Ouais, pareil, je pense que on serait parti en repérage, surtout, en tout cas sur la première boucle avec la trifonction, avec toi, Greg, pour voir ce que ça donne. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça, en me disant si c'est confort sur 90 kilos sur la moitié du parcours. Elle me convient très bien sur la course à pied. Là, j'en ai des certitudes maintenant. Je nage très bien avec. C'est vrai que les 180 en vélo, j'aurais peut-être pas l'occasion de les tester avant avec la trifonction. Et c'est là où il y aura peut-être potentiellement le plus de problèmes de confort. Mais je ne me vois pas mettre un cuissard par-dessus ma trifonction pour le vélo, en tout cas. Pas pour l'instant.
Et Steve?
Et pareil pour moi, je pense que c'est aussi, ça reste une interrogation. J'ai encore pas vraiment pu la porter très souvent, cette trifonction. Et de savoir si elle tient sur un semi ou sur un iron, bah, j'en ai aucune idée. Mais c'est clair que la première idée, c'est de partir sur cette trifonction, parce que, bah, comme dit Arnaud, bah, elle est juste magnifique, elle a des belles couleurs du Tri-Team Nutri. Mais au niveau confort, effectivement, sur un full distance de 180 km, peut-être privilégier le confort et puis être habillé autrement pour la partie vélo. En tout cas, Sur le Swissman, j'ai eu l'occasion de me changer assez souvent. Donc là, j'ai clairement opté pour la version confort, que ce soit short et t-shirt. Hein, je me suis régulièrement changé. Et puis après, aussi pour la course à pied. Bon, après, c'était pas une course club, donc j'ai quand même porté les couleurs du TTL. Mais disons que j'ai pu me changer plusieurs fois, donc j'avais opté plutôt pour le confort sur le Swissman que sur une course classique.
Donc moi, j'ai testé les deux. Hein. Lors de mon premier Ironman, j'avais décidé de faire l'option confort parce que je ne visais pas forcément un temps. Donc j'étais parti en maillot de bain sous ma combinaison de natation dans l'eau. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, dans la tente de transition, j'ai mis ma tenue cycliste. Donc là, ça prend du temps, hein, parce que quand on arrive mouillé, enfiler un cuissard, passer les bretelles, mettre le maillot par-dessus, fermer le zip, ça prend vite quelques longues secondes, voire minutes. Et puis après, le vélo, j'étais de nouveau entièrement changé, puis j'avais mis une tenue de course à pied. Alors, c'est vrai qu'au niveau confort, c'est inégalable. Hein, de faire le vélo dans un cuissard de cycliste, c'est quand même hyper confortable et hyper appréciable. On le retrouve pas dans une trifonction, même quand on a quand même une trifonction qui est prévue pour de la longue distance avec une entre guillemets peau de chamois hein, qui est prévue pour, mais il faut quand même qu'elle soit assez discrète pour la course à pied, et donc du coup c'est quand même moins confortable. Les deux autres, ensuite, je les ai fait en trifonction. Alors moi, je recommande quand même de porter la trifonction sur des sorties longues à vélo pour vraiment voir si ça passe, hein. Il faut faire un 150 bornes avec la trifonction sur le vélo pour vraiment se rendre compte de savoir si ça passe. Parce que moi, il y a des trifonctions, j'en ai changé plusieurs fois avant de trouver celle qui me convenait vraiment. Donc là, c'est vrai que maintenant, on a fait des commandes de trifonctions haut de gamme, hein, pour le club. Et donc du coup, celles-là, elles sont vraiment confortables. J'avais essayé un petit peu d'autres choses par le passé qui ne m'ont pas du tout convenu. Et trouver la trifonction dans laquelle on est confortable, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Et de ne pas partir comme ça, on le disait, hein, de ne pas essayer une nouvelle trifonction le jour de la compétition. Je le dis, mais je l'ai fait à Cervia l'année passée en Italie. Bon, c'était sur un half, hein, c'était pas sur un full, mais bon, voilà.
Bah, t'avais envie de porter ces belles couleurs.
Voilà, exactement.
Elle était belle, cette fonction, elle était belle.
Celle-là, elle est jolie, elle a des couleurs très flashy, ouais. Donc effectivement, et puis elle est alors extrêmement confortable, et elle va très très bien pour la longue distance, et pour ma peau qui est sensible au soleil, avoir les manches qui viennent jusqu'au coude, c'est aussi très appréciable, plutôt que d'avoir les épaules entièrement à l'air, parce qu'alors là, moi je finis aux soins intensifs, mais pour une brûlure au troisième degré. Donc voilà pour la tenue, mais c'est vrai que c'était quand même une de mes grandes interrogations lors de mon premier Ironman, en fait, de savoir comment j'allais m'habiller.
Très rapide, parce que justement, bah, c'est ça, on parlait de confort, et puis moi, une des grandes questions que j'avais, c'était en fait, comment gérer les pauses biologiques dont on a besoin pendant ce genre d'épreuve, parce qu'on va pas se mentir, justement, on a parlé d'alimentation, bah on s'alimente, on boit, et en fait, bah, j'avais jamais vraiment pensé à ça jusqu'à ce que je sois dans la position pour le semi Ironman, encore une fois, de Nice, où on est sur, je vais dire, de la durée d'effort, une durée que j'avais pas encore fait d'une traite, et où simplement, voilà, on a des besoins, et typiquement, j'étais sur le vélo et puis j'ai eu en boucle toujours la même question de me dire comment est-ce que je m'arrête si j'ai envie d'aller aux toilettes, est-ce que je le fais, est-ce que je peux attendre quand même jusqu'à la fin du vélo, et ainsi de suite. Et c'en est devenu vraiment quelque chose très compliqué parce que en fait, ça empiète après sur simplement ressentir l'instant où on est. Au contraire, on sent même trop l'instant, mais on n'est plus dans la dynamique de l'effort, et au final, je l'ai assez mal vécu, parce que au moment où j'ai pris ma décision, je venais de dépasser le ravitaillement, et vu que je m'étais pas arrêté et que au contraire j'avais pris deux gourdes pleines, ça a été très difficile, parce que j'ai enduré quand même jusqu'à la fin des 90 km. Mais après la transition en course à pied m'a soulagé dans tous les sens du terme, mais c'est vrai que c'était une des grandes questions, et aussi du coup qui se projette sur la partie Ironman, parce que là du coup on parle sur des durées d'effort qui sont immenses, et donc encore une fois, c'est peut-être plus à vous renvoyer la question sur comment est-ce que vous gériez ça, et parce que ça fait partie, encore une fois, du confort.
Ouais, alors effectivement, puis c'est une question stratégique aussi, hein, pour pas perdre trop de temps. Si t'es en mode performance sur un Ironman, bah, le but c'est de pas t'arrêter, hein, très clairement. Donc, pour ne pas s'arrêter, il faut essayer d'y aller avant la course et pendant que ce soit plus un problème. Alors, c'est des fois un petit peu des petites techniques de boire un café juste en se levant le matin à 4h30 pour essayer d'aller aux toilettes avant. Et puis, pendant la compétition, l'idée, c'est d'essayer de ne pas s'arrêter. Alors, c'est vrai que il y a souvent des toilettes qui sont disposées dans les zones de transition. Donc, si vraiment il y a un besoin pressant qui se fait sentir, c'est quand même la meilleure stratégie. C'est de juste avant d'aller chercher son vélo à T1 ou alors juste avant de partir sur le parcours de course à pied à T2, bah, c'est de s'arrêter à ce moment-là. À mon avis, c'est quand même le plus efficace. Et puis, on sait que normalement, on risque un carton, hein, si on s'arrête en pleine nature sur le parcours vélo ou le parcours de course à pied. Donc ça, c'est à éviter. Steve, qui est ici arbitre, acquiesce de la tête. Donc voilà, à éviter de s'arrêter au bord du parcours. Et puis en tout cas, s'il y a un arbitre qui passe, ça risque de donner lieu à une pénalité. À proscrire. Moi, je pense que essayer de le faire aux transitions, c'est bien. Essayer d'arriver à ne pas le faire, c'est la meilleure stratégie. Alors, bien évidemment que c'est pas tout le temps possible, mais moi, j'ai pas eu à m'arrêter, par exemple, lors de mon Ironman à Lanzarote en 2016. C'est possible de pas avoir à s'arrêter pour ces raisons-là. Je m'étais moi-même surpris, en fait, à l'arrivée, de me dire, bah tiens, je me suis pas du tout arrêté de la journée. Après, je pense que sur un Swissman qui dure quelques poignées d'heures en plus, je pense que de toute façon, il y a un moment ou un autre, on s'arrête, alors que ce soit pour des besoins naturels ou pour d'autres choses, je pense que de toute façon, il y a des petites pauses, Steve.
Je confirme sur ma course du Swissman 2017 qui a pris 18 heures, je me suis quand même arrêté plusieurs fois et sur le vélo et sur la course à pied. Mais je pense que sur un semi ou sur un full, si on a pris effectivement un bon petit déj avec un café qui nous permet d'aller aux toilettes avant le départ de la course, je pense qu'on est quand même tranquille quelques heures. Donc en T1, après la natation, à mon avis, il n'y a pas besoin. Après, effectivement, moi, en T2, généralement, je fais une petite pause parce que de partir sur la course à pied où voilà, la vessie risque de secouer un petit peu et puis c'est quand même désagréable de devoir courir en ayant besoin d'aller aux toilettes. Mais ça peut aussi être gênant, comme toi, Arnaud, sur le vélo. Moi, je pense que si ça devient gênant et puis qu'on y pense trop, autant s'arrêter, même si on perd une minute, deux minutes. Ça sera quand même un confort de gagner pour la fin du vélo. Et après, moi, je pense qu'en T2, avant d'attaquer la course à pied, moi, en tout cas, généralement, je le fais parce que suivant comment on s'est alimenté sur le vélo et comment on a bu, c'est quasiment sûr qu'on a besoin d'aller aux toilettes à T2, quoi. Mais ça, c'est personnel.
Après, c'est un petit peu comme tout, hein. C'est aussi, tout d'un coup, tu décides de faire ton vélo à pieds nus, mais que pour les 42 km de course à pied, tu veux mettre des chaussettes. T'enfiles tes chaussettes, bien évidemment, rapidement à T2, puis tu mets tes chaussures et tu pars à la course, puis tu te rends compte, après 3 km, que ta chaussette, elle a un pli sous un des orteils. La décision, est-ce que je m'arrête, j'enlève ma chaussure, je remets ma chaussette correctement, je remets ma chaussure, je rattache, je vais perdre du temps et je repars. Ou alors, est-ce que je risque de m'ouvrir jusqu'au sang parce que je vais essayer de persévérer là-dedans jusqu'au bout et puis après, éventuellement même de devoir abandonner, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu as ton pied qui est trop blessé, ça fait trop mal et puis voilà. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver pour chacune des choses. Ça peut être un besoin naturel, ça peut être aussi d'autres choses. Une irritation due à la trifonction, on en parlait tout à l'heure, ou alors comment tu as enfilé ta chaussette, ou alors n'importe quel autre problème qui nécessite que tu t'arrêtes quelques minutes. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas C'est quelqu'un qui va se qualifier pour qui tente de se qualifier pour Hawaï aura peut-être pas le même niveau de décision que celui qui est 135e au classement non plus, hein. Donc là, après, il y a aussi d'autres considérations qui rentrent en jeu, mais voilà. Moi, comme je le disais, si je dois m'arrêter à T2 dans le cabinet de toilette avant de partir sur la course à pied, je le fais. Et un dernier point qu'on peut aborder dans cette question sur les questions les plus fréquemment posées, en tout cas quand je discute avec des triathlètes qui débutent, c'est la question du vélo. Et quel type de vélo est-ce que je dois acheter si je veux me lancer dans un Ironman? Est-ce que je dois absolument avoir un vélo de chrono avec le guidon de triathlète, avec des énormes roues profilées, ou est-ce que je peux prendre mon vélo de route, etc. Donc là encore, on va faire un petit tour de table et puis voir un petit peu quel matériel vous aviez imaginé rouler cet été à Thun. Est-ce que c'est plutôt un vélo de triathlon, donc profilé, couché sur le guidon, ou alors est-ce que c'est plutôt un vélo de route, Arnaud?
Écoute, moi, c'est plutôt en termes de possibilités. Hein. J'ai un vélo de route avec des jantes carbone qui sont aéro, mais qui ne sont pas trop aéro. Donc, c'est un vélo qui est donc de la marque Canyon, de type donc Aeroad, qui est un petit peu plus profilé, mais qui reste assez polyvalent. Donc, je l'utilise un petit peu pour tout, parce que, bah, évidemment, à côté de chez nous, on a quand même pas mal de dénivelé aussi. Donc, je voulais... vu que je découvre encore une fois cet univers-là, je pouvais pas m'équiper hein, sur tous les formats de vélo possibles. Donc j'ai essayé de trouver voilà un compromis entre ce que j'aime, donc relativement de la vitesse, et puis de l'autre côté quand même pouvoir découvrir de super paysages, montagnes, et avoir voilà ce format-là. Donc c'est pour l'instant quelque chose d'un peu j'estime ambivalent qui me, enfin pas pardon polyvalent qui me convient bien.
Voilà, donc un seul vélo pourra à peu près tout faire pour toi. Et puis Thomas, toi, qu'est-ce que tu aurais pris comme vélo pour le parcours de Thun? On rappelle à nos auditeurs hein, que le parcours de Thun est quand même assez exigeant. Il y a quand même près de 1000 mètres de dénivelé sur la boucle de vélo, donc un total de près de 2000 mètres sur l'intégralité du parcours, donc c'est pas tout plat. Est-ce que tu serais parti quand même? On voit derrière toi, au moment où on enregistre ce podcast au travers de Skype, qu'il y a ton vélo derrière, et c'est un joli vélo profilé de triathlon. Et puis je crois que t'as aussi un vélo de route cadre classique, donc lequel des deux t'aurais choisi?
Je pense que j'aurais quand même opté pour le vélo de triathlon, parce qu'on a la chance de pouvoir les repérer, donc ça, je pense que la décision se serait faite après le repérage bien entendu, mais on peut s'entraîner avec du dénivelé par ici, on peut passer du temps sur ce vélo de triathlon, donc je pense que j'aurais fait le choix sur ce vélo, aussi parce que je l'ai acheté pour. Comme Arnaud, il y a 2 ans de ça, j'avais un vélo, un Kyotac avec des prolongateurs qui faisaient tout, c'était bien pratique, et maintenant... J'ai ce luxe d'avoir ce choix qui est en fait parfois assez compliqué à faire, notamment sur les Ironman qui sont de plus en plus, notamment pour éviter les histoires de drafting, etc., de plus en plus avec du dénivelé, ce que je trouve très bien, mais donc qui remet en cause après ce choix, la question du vélo. Et donc pour tout un vélo, je pense, on parle de 180 km quand même, donc il y aura du temps à plat, il y aura du temps à passer sur ce vélo, l'aérodynamisme rentre quand même pas mal en jeu. Donc, je pense que le choix du vélo Eros s'impose. Ouais.
Et Steve?
Alors, moi, j'ai un vélo qui est un peu plutôt dans le style de Arnaud, plutôt polyvalent, qui me permet de faire du plat, de la montée, et qui va très bien. Mais je pense que j'aurais forcément pris ce vélo, mais je l'aurais un petit peu adapté en mode plus aéro, plus triathlon. Parce qu'en fait, j'avais prévu en avril de faire un bike fitting dans un magasin tout près de chez nous. Et en même temps, de le rendre un peu plus triathlon en rajoutant un prolongateur, éventuellement d'autres roues, mais ça, c'était une question que je m'étais posée, d'adapter un peu les porte-gourdes pour être en mode Ironman. Donc oui, je pense que je l'aurais adapté en mode triathlon longue distance, mais je serais parti sur mon vélo qui est plutôt polyvalent.
Très bien, donc on voit qu'il y a un petit peu les deux choses. Oui, Thomas, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, j'ai une question pour toi. Greg, là, on parle du choix du vélo. Est-ce que tu vas jusqu'au choix de la cassette, etc. lorsque tu te lances sur une course, j'imagine, tu vas jusqu'au choix de changer peut-être la cassette, l'adapter en fonction de la course, ou tu prends le vélo comme il est et puis c'est soit le vélo de triathlon, soit le vélo de montagne?
Alors, moi, en fait, je choisis le vélo, donc soit le vélo de triathlon. Alors, moi, j'ai vraiment un vélo de triathlon très, très typé aéro et performance, Donc ça c'est clair, c'est soit celui-là sur un parcours, mais même Thun, hein, j'aurais vraiment clairement pris le vélo de triathlon, ou alors le vélo cadre route, mais ce serait plutôt pour un parcours style l'Embraman ou quelque chose comme ça, hein, où je reviendrais à un vélo de type classique. Après, ce qui va changer, c'est les roues. J'ai la possibilité de mettre 2 paires de roues maintenant sur mon nouveau vélo de chrono, donc soit des roues à profil moyen, sur lesquelles j'ai une cassette qui est un petit peu plus polyvalente, donc qui me permet de passer un petit peu plus en souplesse les pentes. Moi, je suis pas très très à l'aise quand ça commence à monter à 8% ou plus, donc il faut vraiment que je puisse mouliner. Donc là, j'ai une cassette qui est un petit peu plus étalée avec une cassette en 11-28 en fait, qui me permet avec mon pédalier à l'avant en 36-52. Donc sur le 36-28, ça me permet quand même de garder une cadence acceptable dans des pentes de 8-9%. Et puis d'avoir une paire de roues beaucoup plus profilée, beaucoup plus haute pour des parcours un tout petit peu plus plats et rapides avec une cassette de 11-25 qui permet d'avoir un étagement un tout petit peu plus serré sur les parties faux plat montant, faux plat descendant, de vraiment trouver les bons rapports. Et donc là, effectivement, ça aurait été le repérage des parcours de Toons successifs avec ces deux paires de roues cet été qui auraient dit, ben voilà, c'est celle-là ou celle-ci. J'ai fait quelques repérages en automne passé avec mon ancien vélo de chrono, donc j'ai pas vraiment encore de référence par rapport au nouveau matériel, mais honnêtement, je pense que j'aurais pris les roues un petit peu moins profilées pour pouvoir avoir justement cette cassette dessus qui me permet quand même, dans les pourcentages, il y a quand même quelques petites côtes qui font mal, hein, sur le parcours de Toon, de pouvoir quand même garder une cadence correcte et puis pas de s'épuiser en emmenant du trop gros.
Bon, après, un paramètre qui pourrait modifier le choix des roues, ça serait éventuellement du vent. Avec des roues bien profilées, un joli vent latéral, ça peut devenir dangereux.
Alors effectivement, après, si on a des roues qui prennent énormément le vent puis que ça souffle très fort, ça peut être le cas. Maintenant, moi, je suis un athlète relativement costaud qui pèse quand même bien son poids. Donc quand je suis posé sur mon vélo, en général, ça bouge relativement peu et j'ai pu utiliser quand même des roues relativement profilées sur des îles comme Lanzarote où on est allé faire des camps d'entraînement et des compétitions et de pas trop souffrir de ce vent qui tape dans le vélo. Mais quand on a un cycliste un petit peu plus léger, c'est sûr que d'avoir du vent qui tape dans des roues soit dans une roue lenticulaire, donc une roue pleine à l'arrière, ou alors des roues à très haut profil, ça peut vite nous faire dévier de trajectoire, ça peut vite devenir dangereux, donc il y a aussi ce paramètre-là qui rentre en ligne de compte. Ouais. Mais on le voit, et pour répondre à la question que la plupart des gens se posent, c'est est-ce qu'il faut absolument un vélo de triathlon pour faire de la longue distance, pour faire du triathlon en général ? Non, hein, la réponse est clairement non. Suivant le parcours, on sera peut-être avantagé avec un vélo de triathlon parce qu'on est plus aérodynamique, et comme c'est une course contre soi-même, contre la montre, et qu'on n'a pas le droit de prendre la roue sur ces types de triathlon, être aérodynamique, être plus bas sur son guidon, ça aide à la... avoir un aérodynamisme qui est meilleur, mais c'est absolument pas indispensable d'avoir ce type de matériel. On peut tout à fait commencer même la longue distance avec un cadre classique. Donc voilà un petit peu les questions que j'avais notées moi de mon côté. On a parlé de l'alimentation au tout début avec Thomas, on renvoie à l'épisode précédent par rapport à l'alimentation en course, et puis on rappelle, hein, c'est vraiment des choses qu'il faut entraîner avant à l'entraînement, puis partir avec son ravitaillement qu'on connaît sur la course, ça c'est hyper important. Après, bien évidemment qu'il reste la grande inconnue que Arnaud nous présentait en début d'épisode, c'est de savoir est-ce que je vais tenir la distance. Bon, on s'entraîne du mieux qu'on peut, hein, pour tenir cette distance, et puis le secret, je pense, après, sur de la très longue distance, c'est de savoir modérer son effort et puis tenir sur les 12, 13, 14 heures que peuvent durer un Ironman pour la plupart d'entre nous, essayer d'arriver avec encore de l'énergie dans les 10 derniers kilomètres de cette course à pied. Est-ce que vous aviez encore des interrogations ou alors des questions que vous posiez avant de commencer à vous mettre sur du triathlon moyenne ou longue distance ? Donc, non. Apparemment, vu vos visages et vos signes de tête, je crois qu'on a couvert un petit peu la thématique pour cet épisode. Donc, je vous remercie, hein, messieurs, d'avoir participé à ce nouvel épisode de la préparation. On le rappelle, on prépare plus grand-chose maintenant, mais on va continuer à enregistrer quelques épisodes par rapport à la préparation Ironman et triathlon cette saison. C'était pas prévu comme ça quand on a lancé notre série de podcasts juste avant de partir à Fuerteventura au début du mois de mars, mais les choses sont ainsi. Et on va continuer à trouver des invités pour nous parler de préparation Ironman et triathlon au cours de ces prochaines semaines. Merci Arnaud, merci Thomas, merci Steve d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. C'était un vrai plaisir. Et puis, ce sera de nouveau un plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour un prochain épisode.
Merci à vous.
Merci à toi.
Super, merci Greg.